Bon dimanche. Ça commence à sentir l'automne. Ça commence à être frais le matin. Fait qu'on a l'école qui s'en vient. Deux services la semaine prochaine. C'est le retour à la normale. Mais vraiment, un bel été qu'on a eu. Un été chaud, assez sec, hein? Mais aussi un bel été ici à l'église, Le Sentier, avec toute une série sur les promesses de Dieu. On a entendu parler de promesses, de la présence de Dieu, promesses du salut, promesses dans la vie quotidienne, promesses dans les souffrances, toutes sortes de belles promesses. Je vous encourage, si vous avez manqué des services, là, d'aller les écouter sur YouTube, ils sont tous disponibles. Des beaux rappels que comment Dieu nous promet et Dieu nous bénit. Et ce matin, le passage qu'on va lire, c'est un peu un résumé, si on veut, de toutes les promesses dont on a entendu parler cet été. On va parler qu'est-ce que ça signifie d'avoir vraiment ces promesses-là dans nos vies concrètement. Il y a une promesse fondamentale dans toute la Bible. De Genèse à l'Apocalypse, toute la Bible, il y a une promesse qui revient constamment. Robert en a parlé déjà un peu, hein, il parlait de la présence de Dieu. Cette promesse-là, c'est, je la résume, mais il y a beaucoup de versets qui le disent. Ça dit « Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple ». On pourrait dire que c'est la colonne vertébrale de l'Évangile. Ça pointe vers le but ultime de la bonne nouvelle. Parce que le point culminant, l'objectif de la bonne nouvelle, c'est pas simplement le pardon des péchés, c'est pas d'aller au ciel. Le point culminant, le but du salut, c'est la communion avec Dieu. C'est de vivre avec Dieu pour toujours. Ce désir de communion avec Dieu, là, c'est un désir fondamental. C'est que tous les êtres humains ont ce désir-là. Ils ne l'expriment pas nécessairement en disant « j'ai le désir de la communion avec Dieu », mais ils ont quelque chose en eux, il y a un sentiment, un désir d'espoir qui est difficile à expliquer. J.R. Tolkien, je ne sais pas si vous connaissez Tolkien, moi je suis un peu nerd. J'ai tous les livres, j'ai même les autres livres autres que « Le Seigneur des Anneaux ». J'ai les lettres de Tolkien, hein, les correspondances qu'il y avait. Dans une de ces lettres, Tolkien écrit « Nous aspirons tous à Éden et nous l'entrevoyons constamment, notre nature tout entière, dans ce qu'elle a de meilleur, de moins corrompu, de plus doux, de plus humain, est encore imprégnée d'un sentiment d'exil. » Je pense que c'est quelque chose que tous les êtres humains ressentent, même si on n'a pas de nom pour le décrire. Ça peut être un sentiment de nostalgie, un sentiment de mal du pays. On peut penser à des moments heureux du passé. On aspire à retrouver quelque chose, des proches, son foyer. On repense à des souvenirs d'enfance. Toute une industrie là-dessus, hein? Les émissions pour enfants, comme les, je sais pas, moi, dans ma génération, c'était les Transformers et G.I. Joe. Il y a des adultes, tu sais, qui achètent encore les DVD de ça parce qu'il y a une nostalgie de quelque chose. Des fois, on pense aussi à des relations brisées, à des rêves brisés, à des choses qui sont arrivées dans notre vie. Des regrets, des choses qui ne sont pas complètement guéries. On le ressent dans nos aspirations à la beauté, à la justice, à la paix, au repos, à l'harmonie, dans nos relations, quand on cherche des vraies amitiés, quand on a un désir, on voudrait que Dieu bénisse notre famille, notre communauté, notre monde. On le ressent quand on pense à la souffrance puis qu'on désire que la souffrance cesse. Quand on pense au cancer, à l'Alzheimer, à toutes sortes de maladies, quand on pense aux pays déchirés par la guerre, par la pauvreté, la faim, les abus, les divorces, le racisme, l'esclavage, la traite d'êtres humains, l'avortement, toutes les injustices et les maux du monde, quand on y réfléchit, on ressent un profond désir de les voir disparaître. On sait qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, on sait qu'il y a quelque chose qui manque, le monde ne marche pas bien. Chaque fois qu'on ressent ce genre de désir-là, on aspire à Éden. On aspire à être ramené dans la présence de Dieu. On aspire au paradis retrouvé. On aspire à la communion avec Dieu. C'est une phrase célèbre de saint Augustin dans les Confessions. Il dit « Tu nous as créés pour toi-même et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il se repose en toi. » Avant de commencer à voir le passage ce matin, on va prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci parce qu'on peut s'approcher de toi. Oui, on a le désir d'être en communion avec toi, Seigneur. Ouvre nos cœurs ce matin. Parle-nous et instruis-nous qu'on puisse porter des fruits pour ta gloire, que chaque personne ici, chaque personne qui écoute en ligne, puisse se sentir touchée, sentir ta présence. Seigneur, c'est toi qui veux bénir cette parole. Amen. On va lire ce matin un texte dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 14, où Paul, qui écrit 2 Corinthiens, cette lettre-là, parle de la promesse de communion avec Dieu, puis de qu'est-ce que cela signifie concrètement avec nous, pour nous, dans nos vies. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 14, on va lire jusqu'au verset 1 du chapitre 7. Alors, ça commence, « Ne formez pas un attelage disparate avec les incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, « J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. » Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous du Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Alors, c'est un passage dans lequel Paul encourage les chrétiens à avoir une vie sainte en citant les promesses de Dieu. Plus particulièrement, quand il dit « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple », il cite le livre de Lévitique. C'est le chapitre 26, le verset 12. Et cette phrase-là, « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple », ou des phrases presque similaires, c'est cité environ 30 fois dans toute la Bible. Ça revient, en fait... Après la phrase « ne crains point » ou « n'aie pas peur », c'est la phrase qui revient le plus souvent dans la Bible. C'est la formule de l'alliance. Quand on parle que Dieu fait l'alliance avec Abraham, avec toutes les alliances dans la Bible qu'on voit, c'est la formule de l'alliance qui revient. Il y a deux parties, c'est comme ça qu'on va discuter ce matin. On va voir premièrement, Dieu est notre Dieu. Alors, je serai votre Dieu, c'est la première partie. On va voir comment elle se développe tout au long des Écritures. Puis la deuxième partie, c'est « Nous serons son peuple ». Qu'est-ce que ça signifie être le peuple de Dieu? Alors, premièrement, je serai leur Dieu. Alors, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, de toutes les alliances qu'on peut lire dans la Bible, la même chose est répétée, « Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple ». C'est le cœur des Écritures. Si les Écritures étaient une symphonie musicale, là, ça serait le thème principal qui revient à plusieurs endroits. Ce n'est pas seulement une idée théologique, c'est vraiment l'histoire sainte, c'est l'histoire de Dieu qui s'approche de son peuple parce qu'il veut y demeurer. C'est ce qui est au cœur de tous les récits bibliques et ça exprime le désir de Dieu d'établir une relation, une alliance et de demeurer avec son peuple. C'est elle qui ancre l'ancienne et la nouvelle alliance. Charles Spurgeon, le fameux prédicateur anglais, a dit de ces mots-là, « C'est le chef-d'œuvre de toutes les promesses ». Si vous êtes comme moi, ce n'est pas nécessairement le verset auquel j'aurais pensé en premier en disant « C'est quoi le chef-d'œuvre de toutes les promesses de Dieu? » Il y a peut-être d'autres versets qui seraient venus en tête, Jean 3, 16, ou d'autres versets connus. Mais quand on y réfléchit, cette promesse-là est stupéfiante. C'est des mots courts, simples. Un enfant de 2 ans peut comprendre. Et je pense qu'on a perdu un peu cette capacité de s'imprégner de cette promesse-là parce qu'on pense beaucoup à nous-mêmes, à notre époque. On a oublié la profondeur, la richesse, la sagesse, la connaissance de Dieu. Puis on est constamment centré sur nous-mêmes. On pense à nos besoins, à nos épreuves, à notre travail, à nos désirs, à nos relations. On pense à nous-mêmes. Pourquoi est-ce que cette promesse-là est fondamentale? C'est parce que cette promesse-là réunit un peu toutes les autres promesses. La promesse de la terre, la promesse de bénédiction, la promesse de pardon, la promesse de vie éternelle. Elle vise à restaurer la relation avec Dieu. C'est une promesse qui révèle le cœur de Dieu aussi. Dieu ne veut pas juste réparer le monde, il ne veut pas juste réparer ce qui est brisé dans le monde, il veut vivre avec nous, il veut nous connaître, il veut être en communion avec nous. Et c'est une promesse qui culmine en Jésus, en Jésus-Christ, qui est appelé Emmanuel, littéralement Dieu avec nous. C'est lui qui nous réconcilie, qui réconcilie avec Dieu et qui assure que cette promesse est vraie. En fait, si on pouvait résumer la Bible en une phrase, on pourrait dire probablement « Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple ». C'est un bon résumé. Pour mieux comprendre comment cette promesse-là se développe, on va revenir un petit peu en arrière. Je vais essayer de faire un résumé de la Bible en 5-10 minutes. Là. Je ne sais pas si je vais être capable. Mais je vous encourage à lire votre Bible cette semaine. La Bible, ce n'est pas juste une collection de livres disparates. Hein. Souvent, on va dire, la Bible, c'est une collection de 66 livres. Mais vraiment, la Bible, c'est un livre qui est unifié et qui développe un récit incroyable de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et c'est structuré autour de la présence de Dieu avec son peuple, autour du royaume de Dieu, quand la Bible parle du royaume de Dieu. Et ça adresse un peu la question, comment est-ce que l'humanité peut vivre dans la présence de Dieu? Au commencement, on lit dans les premiers chapitres de la Genèse comment Dieu a créé l'homme et la femme à son image pour vivre en communion parfaite avec lui dans le jardin d'Éden. Ça dit que Dieu marchait dans le jardin, Dieu était présent. Le jardin d'Éden, c'était la présence de Dieu. Le jardin est une espèce de temple, on pourrait dire un temple-jardin, où les humains agissaient comme représentants de Dieu pour étendre sa gloire sur le reste de la création. Spoiler alert, je ne sais pas si vous avez lu la Bible, mais spoiler alert, chapitre 3, la chute arrive. La chute, le péché entre dans le monde par la désobéissance et l'exil commence. Adam et Ève sont chassés du jardin, sont chassés de la présence de Dieu. L'accès à la présence de Dieu est maintenant impossible. C'est bloqué par des anges, par des chérubins, que le texte nous dit. Parce que le péché ne peut pas habiter avec la sainteté. C'est comme on a lu ce matin, Paul dit, « Quel rapport peut-il y avoir entre la lumière et les ténèbres? » Il n'y a aucun rapport, ça ne peut pas se mélanger. Et tout le reste des Écritures développe cette idée de comment Dieu déploie son plan pour réouvrir l'accès à sa présence. Les humains essayent eux-mêmes d'atteindre la présence de Dieu, par exemple, dans l'histoire de la tour de Babel. Il y a toutes sortes d'autres récits, comment les gens essayent de retourner à Dieu. Puis Dieu promet à Abraham qu'il sera son Dieu et le Dieu de sa descendance, dans Genèse 17. Ensuite, Israël se retrouve esclave en Égypte. Dieu les libère. Il l'amène au mont Sinaï, où la même promesse est renouvelée au mont Sinaï. Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Le tabernacle est établi dans Lévitique, le verset que Paul cite, comme une espèce d'Éden portable, un jardin d'Éden portatif peut-être. Dieu peut habiter avec son peuple par le tabernacle, par le culte qui est là. C'est ce que ça dit dans Exode, « Ils me feront un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux. » C'est la raison pour laquelle Dieu rachète Israël de l'Égypte, c'est pour habiter avec eux. Et il y a plusieurs parallèles. On pourrait passer beaucoup de temps à discuter de tous les parallèles entre le jardin d'Éden et le tabernacle et le temple. Rapidement, le mot qui décrit que Dieu crée les luminaires, c'est la lampe. C'est le même mot écrit pour parler des lampes dans le temple ou dans le tabernacle. Les images d'Éden sont tous dans le tabernacle et dans le temple. L'arbre de vie, le fleuve, les pierres précieuses. Le chandelier d'or, la menorah, qui est façonné comme un arbre pour rappeler l'arbre de vie. La structure littéraire est similaire. La création organisée autour de 7 jours. Même chose pour les instructions du tabernacle, autour de 7 déclarations divines. Le temple, plus tard, qu'on va voir, qui est construit en 7 ans. Le même esprit qui plane dans Genèse 1, c'est le même mot qui est employé pour parler de l'esprit qui remplit les artisans qui vont créer, qui vont fabriquer le tabernacle. La mission que Dieu donne à Adam et Ève de cultiver et garder le jardin, c'est le même langage qui est donné aux prêtres. Exactement les mêmes mots. Quand Dieu dit que les prêtres et les lévites doivent servir et garder. Et la création culmine avec le repos du sabbat. C'est la même chose après la construction du tabernacle ou du temple. Il y a l'observation du sabbat. Et après la chute, l'accès à ce sanctuaire-là a été bloqué. C'est-à-dire par des chérubins armés. Les chérubins, là, c'est pas des petits bébés potelés, comme on voit des fois dans les images, là, des petites ailes. Là. C'est des créatures effrayantes qui bloquent l'accès. Et le voile dans le temple qui sépare le temple du Saint des Saints, la section du temple la plus sainte, sur ça, c'est brodé des chérubins qu'on peut lire dans le texte. Alors, c'est vraiment une image d'Éden. Le Saint des Saints représente un peu la présence de Dieu, le jardin d'Éden. Dieu donne aux Lévites des lois, des sacrifices pour permettre l'accès à Dieu. Le sanctuaire, le tabernacle, c'est à la fois le sanctuaire, la demeure, le lieu de rencontre de Dieu. C'est là que Dieu parle avec Moïse, depuis l'arche, entre les chérubins, qu'on nous dit. C'est une présence qui exprime deux réalités, à la fois une bénédiction, puis aussi un danger. Une bénédiction, on a tout le mobilier du tabernacle, la table, des pains de proposition, les chandeliers qui symbolisent la lumière, l'autel des parfums. Alors, toute la bénédiction de Dieu, de la présence divine, mais aussi c'est dangereux. L'accès est strictement limité. Seulement les prêtres peuvent entrer dans la cour intérieure du temple. Seul le grand prêtre peut entrer dans le Saint des Saints une fois par année. Après toute une série de sacrifices, de rituels, de purification, Dieu est saint, il est juste. Il ne peut pas habiter avec un peuple pécheur sans un médiateur. On peut voir un exemple, par exemple, du feu étranger amené par Nadab et Abihu, qu'on peut lire dans le livre de Lévitique, justement, comment c'est dangereux de s'approcher de Dieu de la mauvaise façon. Et c'est là qu'agit le grand prêtre, qui est revêtu d'habits sacrés, qui porte le nom des tribus, qui représente le peuple, qui va devant Dieu pour demander le pardon des péchés. Plus tard, on voit comment Salomon a construit le temple, que le tabernacle est devenu fixe à Jérusalem. Mais le peuple a failli à sa mission. Le temple a été détruit et le peuple encore exilé. Mais le plan de Dieu ne s'arrête pas là. Dieu a envoyé encore des prophètes qui ont annoncé le jugement à cause des péchés, à cause de la corruption, mais aussi que Dieu n'a pas abandonné sa promesse. Et c'est continué d'être répété par tous les prophètes. Dieu sera notre Dieu et nous serons son peuple. Des prophètes comme Jérémie annoncent que Dieu mettra la loi dans le cœur de son peuple, qu'il sera leur Dieu. Ézéchiel qui parle aussi, c'est Ézéchiel qui le dit le plus souvent, « Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple ». Il annonce aussi qu'il y aura un temple futur d'où va couler des eaux vives et un grand prêtre parfait qui va offrir un sacrifice parfait pour nous ouvrir la voie dans la présence de Dieu. Le tabernacle, le temple, c'était juste une ombre, une anticipation de quelque chose d'encore plus grand qui a été révélé en Jésus. Au moment opportun, dans la plénitude du temps, Dieu le Fils est incarné dans un être humain. Emmanuel, Dieu avec nous, Jésus, c'est la présence de Dieu qui marche de nouveau parmi son peuple. Il a guéri, enseigné, pardonné les péchés, il a vécu, il est mort, il est ressuscité, il est monté vers son Père pour régner et intercéder. En Christ, les croyants peuvent maintenant accéder à Dieu. Jésus, c'est lui le nouveau temple qui grandit au travers des nations. Christ est le grand prêtre parfait qui veut présenter le sacrifice qui nous ouvre l'accès au Saint des Saints. Le voile a été déchiré. On peut retourner en Éden, en Jésus. Il nous a donné son Saint-Esprit, qui est la présence de Dieu dans son peuple lui-même, en nous. Dieu vient habiter en nous et dans son Église. Et c'est là que Paul applique directement cette promesse. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai parmi eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ainsi, en Christ, par l'Esprit, la promesse est déjà réelle. Dieu demeure parmi son peuple dès maintenant. Mais bien que réel aujourd'hui, on sait que ce n'est pas encore pleinement achevé. On continue à lutter avec le péché. On voit encore les souffrances dans le monde. Puis on aspire à une communion sans entrave avec Dieu. Et quand on arrive dans le dernier livre de la Bible, de l'Apocalypse, à la toute fin, on voit comment toute la création devient le temple de Dieu. Où le Dieu de l'agneau, ce sont les nouvelles lampes, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel et où Dieu habitera finalement avec son peuple. Et Éden est renouvelé. Je pense que Robert a lu ce verset-là la semaine dernière, dans Apocalypse 21. « J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. » Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu, il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Et dans le tout dernier chapitre de la Bible, Apocalypse 22, on voit que Dieu, au milieu de cette nouvelle Jérusalem, place un arbre, l'arbre de vie, qui guérit les nations. La Bible commence avec Éden et finit avec le Jardin d'Éden. Comme une, si vous voulez faire un exercice, lisez Genèse 1 à 3, puis ensuite lisez Apocalypse 21-22, les parallèles. Et pour revenir à notre texte, Paul cite Lévitique 26, 12, comme je disais, et il l'applique aux chrétiens, « Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai parmi eux, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Si Dieu est notre Dieu, alors nous sommes son peuple. Et ce privilège implique un statut particulier. Et ce statut-là, c'est la sainteté. Dans Lévitique, ça dit justement, « Vous serez saints car je suis saint. » Alors, c'est la deuxième partie, « Ils seront mon peuple. » Et au chapitre 7, dans 2 Corinthiens, ça dit, « Puisque nous avons de telles promesses, alors cette promesse que Dieu est notre Dieu, puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit, et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. » La promesse qu'on a discutée exprime l'espoir. Maintenant, on parle ici de l'accomplissement de cette promesse-là. L'Église, c'est le corps de Christ. Chaque croyant de toutes les nations, de toutes les époques, incarne la présence de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Le temple du Dieu vivant. En tant que chrétien, on doit imiter Dieu et Christ et marcher dans la beauté de la sainteté. Dès que le terme sainteté est mentionné, on a chanté ce matin, « Règne en moi », on parlait de la sainteté dans ce chant-là. Beaucoup pensent à une espèce de perfection absolue, à une norme inaccessible aux humains. Souvent, les gens vont être mal à l'aise. Ils vont penser que c'est du légalisme. La sainteté commence à la nouvelle naissance, la Bible nous dit. En fait, le terme principal dans le Nouveau Testament pour parler des chrétiens, c'est pas chrétien, c'est saint. Partout, ça parle des saints. L'Église catholique, je pense, a des critères. Il faut faire 2 miracles documentés pour devenir un saint. La Bible nous dit que quand on devient un enfant de Dieu, on devient un saint. C'est dit plus que 60 fois dans le Nouveau Testament. La sainteté, puis le terme apparenté, sanctification, ont pour sens fondamental la séparation, le fait d'être mis à part. Ça implique une triple séparation. On est séparé par Dieu comme sa possession à lui, on appartient à Dieu. On est séparé des choses communes et de l'ordinaire. Et on est séparé de tout ce qui est péché, de tout ce qui nous souille. La sainteté, c'est essentiel à la communion avec Dieu, parce que seulement ceux qui sont saints peuvent s'approcher de la présence de Dieu. Ce que Paul est en train de dire ici, puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, ce que Paul est en train de dire, c'est que la sainteté est fondée sur les promesses de Dieu. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Dieu est notre Dieu, alors on peut être saint. Ça veut dire qu'on a une identité à reconnaître. Vous êtes le temple du Dieu vivant. La foi en Jésus produit une transformation. Les chrétiens sont reconnus par Dieu. C'est leur Dieu. Et ils sont des saints. La Bible dit que les choses anciennes sont passées, que les croyants sont nés d'en haut, que les croyants se sont détournés des ténèbres pour se tourner vers la lumière. Ça dit que la Bible, qu'on est uni avec Christ par sa crucifixion, sa mort, sa résurrection, qu'on est libéré de l'esclavage du péché. Les saints ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Individuellement et collectivement, nous sommes le temple du Dieu vivant. Le Nouveau Testament, en grec, utilise 2 termes pour parler du temple. Quand on parle du bâtiment dans son ensemble, toute la structure, le terme grec, c'est « hieron ». Mais la pièce intérieure, le Saint des Saints, où Dieu habite, ça s'appelle le Naos. Paul ici emploie le mot Naos. Quand il dit « Vous êtes le temple du Dieu vivant », littéralement, il dit « Vous êtes le Saint des Saints du Dieu vivant ». Vous êtes le Naos de Dieu, vous êtes l'endroit où Dieu habite, le sanctuaire le plus intime de la présence divine. Ça veut dire qu'on a une incompatibilité à maintenir. Paul dit « Séparez-vous d'eux ». Puisque vous êtes le temple de Dieu, vous devez vous séparer de tout ce qui souille. C'est pourquoi Paul ordonne, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ça, c'est la traduction que moi, je suis habitué dans Louis II, je pense 1910. La sainteté implique, nécessite et exige la séparation de tout ce qui déplaît à Dieu. Et ce n'est pas du légalisme. On ne fait pas ça pour être sauvé. On fait ça parce qu'on est sauvé, parce qu'on est le temple de Dieu. Paul s'adresse ici à des saints. Les croyants et les non-croyants appartiennent à 2 réalités spirituelles opposées. Alors, les chrétiens doivent veiller à ne pas s'unir à ce qui les détournerait d'une vie sainte, conforme à l'Évangile. C'est pourquoi Paul pose 5 questions rhétoriques dans le texte qu'on a lu. Quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Il n'y en a aucune. C'est deux contraires. Ils peuvent pas. Il n'y a pas d'overlap. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Quelle part a le croyant avec l'incroyant? Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? Si on est le temple de Dieu, il ne peut y avoir aucune idole dans ce temple. Dieu se soucie de l'ennemi intérieur, tant collectivement qu'individuellement. On doit être dans le monde, mais on n'est pas du monde. Et cette séparation-là, cette sainteté, ce n'est pas un acte négatif, c'est un acte positif de se consacrer à Dieu. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. On peut comprendre cette exhortation-là, la lumière, la signification spirituelle du tabernacle et du temple et de la promesse que Dieu est notre Dieu. Tout ce qui touche au culte, comme on a parlé du temple, doit être saint. Comme on peut lire dans les longs passages, souvent qu'on saute là, un peu plate là, dans Exode, Lévitique, un roi, les matériaux qui composaient le temple et le tabernacle, c'était des matériaux sacrés. Les prêtres devaient être consacrés. Les lois, les sacrifices suivaient toutes sortes de détails. Il y avait un rejet de tout ce qui souille. Et Paul considérait les croyants de Corinthe comme des saints, purifiés, sanctifiés par Christ, dotés de l'esprit, de dons spirituels, mais les exhortait quand même à se purifier dans le domaine de la chair et de l'esprit. Tout ce que le Saint-Esprit nous révèle par la parole, par son œuvre intérieure, dans notre conscience, par la prière, et qui n'est pas conforme à Christ, est une souillure aux yeux de Dieu. Une souillure qui peut être de la chair, des choses extérieures, ou de l'attitude intérieure, quand ça parle de l'esprit. Tout ce qui n'est pas pleinement conforme à Christ doit être purifié. Et ça demande une participation active du croyant à la repentance, à la confession, au renoncement, à l'humilité, à l'obéissance continue dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ça dit que c'est ce que Paul dit, de poursuivre la sainteté dans la crainte de Dieu, c'est de reconnaître qui est Dieu et de réagir avec une crainte sincère. On ne veut pas lui déplaire, on ne veut pas lui désobéir. Dieu est un feu dévorant. La crainte de Dieu, c'est aussi le choix conscient d'adopter la même attitude que Dieu envers le péché. Dieu ne tolère pas le péché. Dieu haït le péché. Et on doit manifester cette attitude dans notre vie en choisissant ce qui lui plaît. On est une époque où on a perdu la crainte de Dieu. On n'a plus peur de lui désobéir. Certains ont oublié que Dieu n'est pas juste gracieux. Ce n'est pas juste un Dieu de grâce, c'est aussi un Dieu juste. Et cet oubli-là, c'est quelque chose qui affaiblit, qui ralentit notre progression dans la sainteté. Sans cette crainte de Dieu-là, on devient négligent. On minimise nos péchés. On continue d'être attiré par le mal. On continue d'avoir une foi superficielle. Mais la Bible nous enseigne que la crainte de Dieu nous conduit à aimer la vérité, à rejeter le mal et à marcher dans ses voies. C'est le commencement de la sagesse. Comme le psalmiste, on peut prier à chaque jour, « Enseigne-moi tes voies éternelles et je marcherai dans ta vérité. Dispose mon cœur à craindre ton nom. » C'est dans le psaume 86, verset 11. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair, de l'esprit, achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Dieu est notre Dieu, nous sommes son peuple. C'est le chef-d'œuvre de toutes les promesses. Cette promesse est accomplie en Jésus. Son œuvre est complète, elle est parfaite, car pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui. Donc, 3 réponses qu'on doit avoir face à ces promesses. L'identité. Souvenez-vous qui vous êtes. Vous êtes le temple du Dieu vivant. Votre valeur, votre but sont définis par lui. La deuxième chose, c'est la sainteté. Parce que Dieu demeure en nous, nous sommes appelés à être mis à part pour lui. La sainteté, ce n'est pas du légalisme, c'est de vivre en harmonie avec celui qui vit en nous. Et finalement, la troisième chose, c'est l'espérance. on peut vivre pleinement à la lumière du jour où cette promesse va être accomplie pleinement. Nos difficultés, nos souffrances sont temporaires. La présence de Dieu est éternelle. Ultimement, cette promesse, c'est l'Évangile. C'est la bonne nouvelle que Dieu a accompli sa promesse en Jésus-Christ. Par sa mort, par sa résurrection, il nous a rachetés, il a pardonné nos péchés et il restaure la communion avec lui. C'est un salut qui est relationnel. Dieu devient notre Dieu et nous sommes son peuple. On peut vivre dès maintenant dans sa présence par l'Esprit qui vient en nous et on est destiné à partager éternellement sa communion avec la nouvelle création, dans la nouvelle création. En Christ, cette promesse s'étend à toutes les nations, des peuples de toutes langues et sous son règne. Le but ultime de l'Évangile, c'est donc pas seulement le pardon, comme je disais au début, c'est pas seulement d'aller au ciel. Le but de l'Évangile, c'est la joie partagée de vivre pour toujours en communion avec lui, de revenir dans Éden, de retrouver les délices de sa présence. C'est ça le sens du mot Éden, ça veut dire délice. Et de marcher dans la sainteté fondée sur cette promesse que c'est lui qui est notre Dieu. On peut prier. Père éternel, oui, c'est toi qui es notre Dieu. Enseigne-nous, Seigneur, à marcher dans tes voies, à nous purifier, à chercher ta face. Enseigne-nous à te craindre. Enseigne-nous à être une lumière. Fais-nous grandir, Seigneur, par ta parole. Oui, c'est toi qui nous a rachetés, qui nous a sauvés, qui a déchiré ce voile. On peut maintenant entrer dans ta présence, dans le Saint des Saints. Merci, Seigneur, pour ton Église. Merci parce que c'est toi qui règnes dès maintenant. Que ta parole puisse être annoncée sur toute la terre et que chacun puisse entendre qui tu es et comment tu veux cette communion, cette relation parfaite avec nous. Bénis-nous, Seigneur, et bénis la suite de ce dimanche. Amen.